Dans cette dernière partie de l'EM, un petit tour au Festival de la radio et de l'écoute longueur d'onde. C'était à Brest la semaine dernière, ça s'est terminé dimanche soir. Et pour toutes celles et tous ceux qui aiment le son, c'était enthousiasmant. Bien sûr, il y avait les pros de la radio, les animatrices, animateurs, journalistes, documentaristes. Mais à longueur d'onde, il y a aussi des artistes sonores. Morgan Bréfort en a rencontré un, Félix Blum. Il se définit comme ingénieur du son, preneur de son et donc artiste sonore. Et il exposait deux installations sonores originales à l'étage du Quartz. Et l'une d'elles met en avant une tradition bretonne vibratoire étonnante.
Oui, alors on est ici pour le festival Longueur d'onde où il y a deux installations sonores qui se présentent, dont celle-ci dans laquelle vous venez de parler, qui s'appelle Chaudron sonore. Donc c'est vrai que dans ma trajectoire d'artiste sonore, j'ai pu travailler avec le son, mais souvent le son en lien avec l'espace, avec le visuel, avec l'esthétique. Et donc, en effet, dans cette installation, on a du son, mais pas que. On a aussi six chaudrons, six bassines de cuivre qui sont présentées et dans lesquelles sont venus se glisser des écrans. Dans chacun des écrans, on a deux mains qui tirent sur des joncs et qui font vibrer cette bassine. C'est une tradition bretonne, comme vous l'avez dit, qui s'appelle tirer le jonc ou chaudron sonore. Enfin, ça a plusieurs appellations. C'est quand même de moins en moins pratiqué. Et c'est un projet qui a été fait près de Pontivy, en Bretagne, à Rouen, avec des scolaires, avec des classes de CM1, CM2 et une classe de 6e, 5e. Pendant plusieurs semaines, on a créé ce projet ensemble, qui s'appelle Chaudron Sonore, et qui est présenté ici, sous cette forme d'installation audiovisuelle, durant le festival.
Et à l'origine, à quoi servait cette tradition? C'était pour faire des paniers?
Alors cette tradition sonore, je l'ai découverte il y a quelques années via la radio d'ailleurs, hein, via France Inter. On m'avait fait un entretien sur France Inter et du coup, à la suite de l'émission, il y avait une personne de Bretagne qui m'avait dit « Ah ben, si vous êtes intéressé par les sons, ici, il y a cette tradition sonore qui est tirer le jonc. » Et donc, il m'avait envoyé ça. J'avais gardé ça un peu dans un coin de ma tête. Et puis, quand on m'a invité à faire un projet ici en Bretagne, j'ai ressorti cette idée derrière ma tête et cette tradition. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Alors, au départ, c'est une tradition qui avait, comme beaucoup de traditions, qui avait plusieurs facettes, on va dire. Mais c'était principalement à la fête de la Saint-Jean que les gens utilisaient ces bassines qui, par ailleurs, servaient à laver la vaisselle, laver le linge, cuire la confiture ou cuire des aliments, qui, pour la fête de la Saint-Jean, servaient en fait à créer du son, créer une sorte de musique qui permettait d'annoncer la fête aux gens du village. Alors ce sont des bassines en cuivre ou en alliage, en tout cas de cuivre, de laiton, ça va dépendre. Mais ce sont des bassines en métal sur lesquelles on vient placer des joncs, donc ces herbes-là qu'on trouve près des marais. Et ensuite on vient tirer sur ces joncs, on vient frotter pour faire rentrer en vibration la bassine. Cette bassine, quand elle rentre en vibration, elle crée un son, un peu comme un bol tibétain qu'on vient frotter. Et ce son peut être très présent, très fort et peut être parfois entendu à plusieurs kilomètres. C'était aussi une manière, un peu comme on utilise des cloches d'église pour annoncer des événements, de pouvoir annoncer que quelque chose se passe, qu'il y a un événement, une fête, une nouvelle maison, un mariage, etc.
De quand date cette tradition?
Alors les dates exactes, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas un début de la tradition. Il y a des traces assez anciennes, hein, qui peuvent remonter au 19e siècle. Et puis il y a tout un travail plutôt de recherche qui a été fait au milieu du 20e siècle. Et voilà, donc ça s'est petit à petit perdu, comme beaucoup de traditions. Et ça survit encore à quelques endroits. Souvent les grands-parents peuvent avoir entendu parler ou peuvent avoir eux-mêmes participé à cette tradition, qui se faisait un peu dans toute la Bretagne.
Et votre deuxième installation, ce sont des boîtes. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors cette deuxième installation, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, ça a à voir avec le fait que c'est sonore. Donc, ce sont 10 petites boîtes qui contiennent des sons. Qui est un projet qui a été fait avec Daniel Godinez-Nivon au Mexique, qu'on a fait ensemble avec des vendeurs de rue. Quand je suis arrivé à Mexico City en 2009, c'est une ville où laquelle j'ai vécu plusieurs années, j'étais vraiment marqué et frappé par le son des vendeurs de rue, qu'on pouvait entendre, écouter comme des cris, mais aussi comme des chants. Et donc dans chacune de ces boîtes, on a le cri ou le chant d'un des vendeurs de rue, de la rue de la Calle Moneda, de la rue Moneda, dans le centre-ville. Et donc en ouvrant toutes les boîtes, on peut écouter chacune de ces voix, chacune de ces cris, et on peut aussi créer ou décomposer le nombre de voix qui vont faire l'installation sonore. L'installation sonore qui s'appelle Chœur Informel, Coro Informal, avec cette idée que voilà, on peut soi-même écouter le chœur de la ville, écouter le chœur de ces vendeurs ambulants qui sont contenus dans chacune de ces boîtes.
Vous travaillez le son sous toutes ses formes, et là on voit du coup il y a une tradition un peu bretonne, il y a des voix. Vous vous intéressez à tout type de son, vous faites aussi des sons naturels, ou c'est principalement des sons de société qui vous intéressent ?
Ben, je crois que, de manière générale, moi j'aime bien prendre les micros, les ouvrir et enregistrer ce que le monde me donne à enregistrer ou me donne à voir ou à entendre. Après c'est sûr qu'il y a des intérêts, il y a des goûts qui ne sont pas forcément prémédités, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse beaucoup c'est la relation des habitants d'un territoire, qu'ils soient humains ou non humains, avec leur territoire. Et donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse, de comment est-ce qu'on écoute son environnement, comment est-ce que nous-mêmes en produisant des sons on s'inscrit dans cet environnement sonore, ce qui est le cas avec les vendeurs de rue, mais ce qui peut être le cas avec des projets, plutôt des pièces sonores que j'ai pu faire en forêt amazonienne, où justement j'essaie d'enregistrer cette interaction entre ce qu'on appelle l'humain et ce qu'on appelle la nature, et cette idée un peu que l'humain fait partie de cette nature, que l'humain est en constante interaction avec les autres êtres vivants ou non vivants qui nous entourent. Et c'est ça qui m'intéresse, je crois. C'est vraiment savoir comment est-ce qu'on s'inscrit dans un territoire à travers le son, à travers l'écoute. Une écoute qu'on a tous, qu'on est tous singulière, et dont on n'a pas forcément conscience, qu'on considère pas forcément. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment savoir justement comment est-ce que l'autre écoute, comment est-ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il écoute. Qu'est-ce qui l'intéresse dans l'écoute, et du coup de passer par le sonore et par l'écoute pour créer des moments de partage.
Est-ce que vous retravaillez vos sons après les avoir pris pour les présenter par exemple lors d'expositions comme celle-là ?
Alors je travaille assez peu les sons, j'aime bien l'idée de faire confiance au micro, à la matière qu'ils ont récoltée. Après ça passe nécessairement par un micro, par un enregistreur, donc il y a aussi quand même un choix de type de micro, de placement de micro, de qu'est-ce qu'on capte ou qu'est-ce qu'on capte pas. Mais par contre je vais assez peu y appliquer les effets, j'aime bien rester assez brut dans la matière que je récolte.
Il vous arrive de faire des montages ou...
Par contre, oui, bien sûr, je fais beaucoup de montage. Alors, je partage gratuitement tous mes sons sur une plateforme qui s'appelle Freesound. Et donc là, c'est rendu brut, mais sinon, la plupart du temps, je fais des montages, en effet. Je joue, je ne travaille pas, mais je travaille le montage, je travaille le mixage, je travaille l'égalisation quand même. Donc, je travaille, c'est-à-dire que je n'en fais pas vraiment, je n'utilise pas des effets comme ça pourrait être dans la musique électronique. Mais par contre, je retravaille, en effet, dans ce cadre-là, la composition, le montage. Il y a tout un grand travail de montage dans mes créations sonores. Souvent dans l'idée de pouvoir partager une expérience sonore que je peux avoir eue d'un lieu et me dire bon ben voilà, pour la partager il me faut plusieurs éléments, il me faut plusieurs sons, et donc comment est-ce que je peux assembler ces sons pour pouvoir partager au mieux cette expérience.
Dans la société qu'on pourrait dire contemporaine, moderne, il y a une omniprésence de sons et des sons numériques, électroniques. Est-ce que vous captez aussi des sons qu'on pourrait qualifier d'artificiels ou seulement des voix et des sons naturels ?
Non, alors on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est artificiel. C'est à partir du moment que c'est d'un son qui serait créé par l'humain, donc à travers une machine, à travers un mécanisme ou autre. Il y a plein de sons que j'enregistre qui sont créés, veut dire par l'humain, ou qui ont été influencés ou mis en route depuis l'humain. Donc dans la ville de Mexico, évidemment, il y a beaucoup de, il n'y a pas que des voix, mais il y a aussi plein de voitures, de bruits, de moteurs, etc. Et donc ça, c'est des choses que j'ai évidemment aussi captées. J'essaye dans mes enregistrements de pas me cantonner à une certaine catégorie. Et j'essaie en fait surtout d'être entre les catégories ou d'être hors catégorie. J'aime bien cette idée de pas forcément classifier des sons avec des bons sons, des mauvais sons, des sons qui seraient du bruit ou des sons qui seraient de la pollution sonore ou pas. Je pense que l'écoute de notre écoute ou mon écoute, l'écoute de l'environnement peut justement nous aider à prendre conscience de comment l'environnement sonore est construit. Comment est-ce que nous on peut l'écouter, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes prendre des décisions ou influencer là-dessus, et se poser la question de l'environnement sonore, comment on se pose la question d'une architecture, comment on se pose la question de la culture, et prendre le sonore un peu comme un élément sur lequel on peut avoir aussi une influence en tant qu'individu.
Pour conclure cet entretien, est-ce qu'en ce moment vous travaillez sur un projet ? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
J'ai toujours des projets qui sont en cours, des projets à venir, des projets qui se font. Il y a un projet que j'ai fait récemment, que j'ai pu se présenter un petit peu, mais qui va se représenter, qui s'appelle Cello Suites. C'est un projet que j'ai fait en Arizona. Et en fait, là, justement, on est entre l'humain et le naturel, puisque j'ai utilisé des anciens moulins à vent qui sont plus utilisés aujourd'hui, qui servaient de pompe à eau, et sur lesquels je suis venu glisser des violoncelles de telle manière que le mouvement du moulin à vent et le mouvement de ce du mât central de ces moules à vent sert à jouer de l'archer sur le violoncelle, du coup de nous inviter à écouter ces sortes de concerts faits dans le désert par ces moules à vent et ces violoncelles. Donc c'est un projet qui s'appelle Cello Suites et qui a pu se présenter l'an dernier et qui va se présenter cette année à Mexico City, justement dans une exposition un peu plus imposante.
Donc on pourrait dire que vous êtes un peu ingénieur du son.
Bah, j'ai une formation d'ingénieur du son, c'est le point de départ. Hein. Je suis vraiment ingénieur du son, preneur de son. Et puis petit à petit, le sonore m'a amené vers des terrains divers et variés.
Peut-être plus créatifs.
Voilà, des choses plus créatives. Et puis aussi de se dire, au-delà du sonore, comment utiliser l'écoute pour dans une démarche artistique, on va dire. Et donc ça a commencé avec des projets en Thaïlande, avec des flûtes dans l'eau, et puis ça peut m'amener sur d'autres terrains divers et variés. Ça m'a amené à faire des films aussi, des installations sonores, des créations sonores, de la radio. Ben, j'aime bien cette idée de pouvoir faire, à travers le sonore, à travers la création sonore ou les arts sonores, faire plein de choses qui ont un point commun, l'écoute, mais qui peuvent m'amener sur des terrains que je ne connais pas. Et c'est ça qui est chouette, c'est d'avoir plein de surprises sonores dans les différents projets.
Et aujourd'hui, à Longueur d'onde, vous avez eu un atelier avec des enfants, c'est ça, ce matin? Et vous avez d'autres choses de prévues pour ce festival?
Oui, alors à Longueur d'onde, je me suis rendu compte, je découvre le festival, et c'est vrai que donc, c'est un festival assez intense en activité. Donc j'ai eu l'occasion de parler avec deux classes ce matin, leur parler de mon travail de manière générale, le preneur de son et d'artiste sonore, et aussi leur montrer les deux installations qui sont ici. Ensuite, je vais participer à une table ronde sur justement la prise de son naturaliste ou sur l'enregistrement des sons, pas que naturaliste, mais en tout cas comment on se positionne par rapport à l'enregistrement du sonore à 17h30 avec différents autres preneurs de son, preneuses de son, tels que Florian Pochon, Aline Penito, Mélia Roger et Marc Lamblard, pour se poser la question de l'enregistrement de terrain, de l'enregistrement hors des studios, de cet enregistrement du monde qui nous entoure.
Oui, Longueur d'onde, c'est fini, mais Félix Blum, on peut le suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur son site internet. Blum, ça s'écrit B-L-U-M-E.